s'empare de la société économique, entre guillemets, puisque, bon, là, je fais une distinction simple pour pouvoir parler un peu d'économie, puisque on est supposé ici, pour l'essentiel, être en économie. D'autres approches ou d'autres dimensions soient mineures, hein, mais il faut bien choisir de parler de quelque chose. Bon, donc je choisis de parler de ça. Alors, ici encore, je vais passer en style télégraphique, parce qu'il y a des choses qui maintenant sont bien connues. Bon, ce à quoi on a assisté, donc à travers le fonds de pension, à travers le nouveau pouvoir des investisseurs institutionnels et notamment des investisseurs minoritaires, c'est une modification plus ou moins profonde, suivant les espaces nationaux et suivant les pays, de ce qu'on appelle le corporate governance, donc gouvernement d'entreprise. Et c'est vrai que la vraie nouveauté, c'est que la gestion en fonction de la valeur actionnariale n'est pas mise. Bien sûr, les entreprises continuent d'avoir des objectifs stratégiques, bien sûr, elles continuent d'avoir des visées industrielles, des visées en termes d'internationalisation, etc. Mais incontestablement, cette dimension-là, dégager du cash, et cash qui soit appropriable par les actionnaires, est devenue, dans ce qu'on appelle dans le jargon, dans l'argument important. Je ne dis pas l'argument exclusif, hein, mais l'un des arguments importants. Avec la bulle et l'explosion de la bulle de 2001, on l'a un peu oublié, mais c'est vrai que la condition mise par les investisseurs institutionnels et les fonds de pension à des rentabilités insensées, je dis bien insensées, hein, de l'ordre de 15 à 18% comme condition pour rester dans l'actionnariat des entreprises, une période, une véritable norme, une véritable règle, jusqu'à ce qu'on s'aperçoive que c'était intenable, donc après 2001. Bon, et donc pas rentrer non plus là-dessus dans les détails parce qu'on n'a pas le temps, mais il y a eu une modification extrêmement profonde. Alors ça, je vais quand même vous donner ce chiffre-là. Le retour de ce qu'on a appelé le core business, hein, le retour des entreprises vers quelques métiers de base.
Merci.
Non, mais ça, c'est... Pourquoi je vous donne ces chiffres? C'est pour vous montrer l'extraordinaire, comment dire, pression, tension et, par suite, réorganisation qu'on a pu avoir dans les économies, en l'occurrence, là, dans l'économie française.
Bon, de toute façon, vous n'allez pas voir grand-chose parce que c'est trop petit.
Ah, très bien. Bon, alors ça, c'est une petite illustration. Il faut bien comprendre le recentrage sur les métiers exprimé à travers la contribution aux ventes nettes des principales activités des grands groupes français. Hein, ça vous donne une idée du bouillonnement auquel on a pu assister. Les ventes nettes des deux principales activités des principaux groupes français, sachant qu'ils en ont 7, 8, 10, 11, 12, hein, absolument sans problème, hein, à cette époque, hein, faisaient 35% du total, et progressivement ça monte jusqu'à 70% du total. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a eu recentrage sur quelques métiers de base et cession de toute une autre. On a parlé de plein de choses, hein, des licenciements boursiers, des restructurations, des délocalisations, etc. Ça, c'en est un indicateur extraordinairement fort. Revenu opérationnel des 2,9% en 98, 87%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans la plupart des entreprises, on est revenu à quelques métiers de base. Ça, c'est la logique, j'ai envie de dire, c'est le point commun, si on parle d'approche cognitive, ça, c'est, disons, le noyau dur de ce qu'est une entreprise, c'est-à-dire ce qu'elle sait faire, hein, ce qu'elle est capable de coordonner efficacement. Donc, tout le reste, donc, a été cédé sous des formes multiples. Ce qui est très important aussi, c'est que, je veux quand même dire ça, à travers les évolutions de la valeur représentée, hein, de la valeur titrisée, placée sur les marchés et donc évaluée par les marchés financiers. On est passé dans des situations tout à fait particulières dans lesquelles, suivant la valorisation qui était faite, on était capable de tout manger et de tout acheter, et le lendemain, on était une entreprise vulnérable, ouverte à tout vent. Les télécoms, elle est quand même sublime, et c'est l'histoire de France Télécom, c'est celle de Vivendi, c'est celle de, enfin on pourrait, il y a 10 groupes. France Télécom, dans sa gloire, c'est-à-dire juste après sa privatisation, est arrivée à valoir jusqu'à 250 euros l'action. À cette époque-là, France Télécom était un monstre capable d'avaler, de pouvoir avaler à peu près n'importe quoi. Et c'est le moment des grandes acquisitions, Orange, Equant, Freeserve, etc., etc., bien, à des prix qui d'ailleurs ont été souvent extrêmement élevés. Alors, je passe sur une série d'éléments. Après l'effondrement des représentations, mais de toute façon, moi, c'est mon idée, hein, c'est substantiel de la finance, hein, la, comment dire, la évaluation ou la sous-évaluation systématique. France Télécom s'est trouvé valoir moins de 8 euros l'action. Hein. C'est-à-dire que c'est à ce moment-là que les pouvoirs publics, comme toujours, hein, sont intervenus pour redresser France Télécom, qui pouvait à 16e, le 17e, le 18e, le 20e, était à ce moment-là. Alors, je ne veux pas rentrer dans les détails, je veux seulement dire, la titrisation, via la liquidité, via les procédures d'achat sur les marchés, via la formalisation des OPA, des OPE, etc., on a eu une recomposition, et on a une recomposition permanente du tissu industriel. Je ne veux pas me montrer trop polémique, mais quand on parle de stratégie industrielle aujourd'hui, de la part des grands groupes, franchement, c'est vrai que très souvent, on se demande de... Regardez Vivendi Universal, hein, regardez le cas de Vivendi. Aujourd'hui, donc, trois ans après le crack, 3 ans après la reprise, c'est quoi le métier sur lequel Vivendi veut se reconstituer? Eh bien, si vous savez, vous êtes très fort, hein, vous êtes très fort, parce que il n'y a pas moyen de comprendre véritablement quel va être le core business de Vivendi, à quoi joue Jean-René Fourtou. C'est vraiment, comment dire, et je crois que ça c'est typique de l'époque contemporaine. Hein, c'est typique de l'époque contemporaine. Bon, j'ai fini pour ouvrir la discussion. Comment tout ceci affecte le travail? Mais vous comprenez, je suis passé très vite, hein, je m'en excuse, vous comprenez que j'avais absolument besoin de passer par la manière dont la finance impacte l'entreprise et l'organisation industrielle. Comment la finance impacte le travail? Alors, je vais le dire de la manière suivante. En disant que la forme principale d'impact, c'est la suivante. Alors qu'il existait un mouvement général, commencé depuis fort longtemps, depuis au moins la fin des années 70, donc alors qu'il existait un fort mouvement général vers sous différentes formes, y compris, j'y reviendrai parce que c'est un point important, sous la forme de la flexibilisation interne, mais j'y reviendrai. Bon, donc alors qu'il existait un fort mouvement vers la flexibilisation du travail, l'irruption, entre guillemets, de la finance, en tout cas, la prégnance de la finance va opérer comment? Elle, en se saisissant de ce mouvement de flexibilisation du travail, par certains aspects, mes petits chiffres là sur le recentrage sur les métiers et le délestage des autres métiers a beaucoup à voir, évidemment, avec ce mouvement de flexibilisation du travail. Donc, d'une part, il va l'accélérer, mais ce n'est pas ça la contribution spécifique de la finance, me semble-t-il. D'autre part, et c'est ça sa contribution spécifique, la finance va introduire